Il a beaucoup à nous dire de la société politique.
Il a toujours dit, au fond, le cœur de mon œuvre, c'est la dénonciation des inégalités. Au fond, par quelle proposition est-il encore notre contemporain ? Il me semble que la proposition la plus contemporaine dans son œuvre, la plus contemporaine, c'est sa critique des inégalités. Parce que cette critique des inégalités, elle est totale. Elle est totale. Il dit au fond, je dénonce les inégalités parce que ce sont les inégalités qui nous rendent méchants. C'est en cela que c'est radical.
Prénom ?
Jean-Jacques. Beaucoup préfèrent l'appeler ainsi.
Nom ?
Rousseau.
Surnom ?
Oh, innombrable. Rien que chez Voltaire, le chien de Diogène, le Judas de la troupe sacrée de l'encyclopédie.
Sa naissance ?
28 juin 1712 à Genève, une famille plébéienne. Sa mère mourra 10 jours après sa naissance. Genève, où il commencera toutes sortes d'apprentissages. Il se distinguera du groupe social des philosophes par cette appartenance revendiquée au peuple qui compose le genre humain.
Un mariage ?
Tardif, avec Thérèse Levasseur, après un long compagnonnage revendiqué.
Quelles sont ses principales œuvres de philosophie politique, celles qui vont nous intéresser pour ce deuxième épisode ?
Les deux fameux discours destinés à l'Académie de Dijon, le second consacré en 1755 à l'origine et au fondement de l'inégalité. En 1761-1762, l'Émile, le contrat social, qui vont le transformer en proscrit pour près de 10 ans, En 1768, il publie son projet de constitution pour la Corse indépendante. Il a songé à aller habiter l'île. Il a bien fait parce que Louis XV l'envahit l'année suivante. Enfin, en 1772, ses considérations sur le gouvernement de la Pologne.
Et sa mort ?
Le 2 juillet 1778. Les révolutionnaires de 1789 ne cesseront d'interroger son œuvre et les conventionnels de 1794 vont le panthéoniser. Après son vieil ennemi Voltaire, toutefois.
France Inter. Intelligence Service. Jean Lebrun.
Sachez, monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Pour commencer, pouvez-vous nous donner des éléments qui expliquent l'ouverture de ce dossier ?
Eh bien, notre interlocuteur, Florent Guénard, qu'on a déjà entendu un instant, le dira beaucoup mieux que moi. Avant de passer à l'université, d'animer le site « La vie des idées », Florent Guénard enseignait en Seine-Saint-Denis. Et Rousseau plaisait à ses élèves. D'abord parce qu'il avait été amoureux, qu'il avait eu de si belles conversations confiantes avec Madame de Varins, et aussi parce qu'il avait emprunté tant de chemins de traverse dans sa jeunesse qu'il pouvait affirmer « j'ai vécu ». Mais ça, on aurait pu le dire déjà lors de notre première émission consacrée à Jean-Jacques, l'auteur des Confessions. Aujourd'hui, c'est le Rousseau politique qui va nous occuper et que Florent Guénard aimait aussi partager avec ses terminales.
Deux lignes, au fond, deux centres d'intérêt m'ont conduit à Rousseau. J'y ai d'abord vu un écrivain. Ce que j'ai d'abord aimé dans Rousseau, c'est son style. C'est la beauté de la langue. C'est une langue incomparable, parfaite. C'est un rythme. C'est une phrase qui sait toujours vous bercer, que ça soit dans ses œuvres littéraires ou dans ses œuvres politiques. Ça, c'est, je pense, la première chose. Donc, c'est effectivement un Rousseau qui touche la sensibilité. Un Rousseau dont l'objet est la sensibilité et qui sait quand même vous émouvoir et qui sait quand même, par le travail, justement, littéraire, vous inciter à le suivre. C'est ça qu'il fait. Il incite à le suivre. Et puis, la deuxième chose qui m'a amené à Rousseau, c'est au fond l'idée que, ce que je lis, moi, dans Rousseau, l'idée que toute cette œuvre, pourtant, c'est une œuvre morale, c'est une œuvre où on trouve de la morale, on trouve de la métaphysique, on trouve de la philosophie de la religion, mais c'est aussi une œuvre, comme on le disait, indépendamment de la philosophie, c'est une œuvre où vous trouvez des considérations sur la musique, des considérations sur l'art, des considérations en chimie, etc. Que tout ça, au fond, si on l'écoutait bien quand il en parlait, il disait, au fond, tout converge vers l'idée que le cœur de tout ça, c'est la politique.
Rousseau, jeune, a exercé bien des métiers. Son vieil adversaire Voltaire soutiendra même qu'il a été valet. Et alors ? Son parcours d'écrivain commence assez tard, avec le premier discours sur les sciences et les arts, qui lui valent en 1750, les lauriers de l'Académie de Dijon.
Qu'est-ce qu'on fait quand on écrit ? Qu'est-ce que c'est qu'être un écrivain ? C'est quand même ça la première question qui s'est posée, et il se l'est posée au moment même où il devenait lui-même un écrivain. Dans le premier discours, c'est quand même assez flagrant, hein ? Dans le premier discours, alors, qui est un peu excessif, qui est un peu rhétorique, qui est un peu une œuvre de jeunesse, etc., mais qui contient des intuitions extrêmement fortes, hein ? Dans le premier discours, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, qu'est-ce qu'on peut attendre de la culture ? Qu'est-ce qu'on peut attendre des sciences et des lettres ? Qu'est-ce qu'on peut attendre des arts et des sciences ? Qu'est-ce qu'on peut attendre de tout ça ? Qu'est-ce que c'est qu'au fond, qu'est-ce que c'est qu'un écrivain ? Qu'est-ce que c'est qu'un artiste ? Qu'est-ce qu'il peut faire comme ça à l'adresse du public ? Alors, ça a été mal interprété, vous savez, ça l'est encore d'ailleurs. Ça a été interprété comme une critique en règle, justement, des sciences et des arts, une critique un peu ironique pour quelqu'un qui rentrait justement et qui faisait profession, qui voulait être écrivain. Et en même temps, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement profond et qui est pas du tout contradictoire d'ailleurs avec la démarche qui a été la sienne ensuite quand il a développé son œuvre. Il pose juste une question, c'est... nous aspirons, nous, là, les modernes, à vouloir être meilleurs, à vouloir être plus savants, à vouloir être plus cultivés, etc., etc. Bon, très bien. Qu'est-ce que, la question que je pose, c'est, est-ce que lorsque nous serons plus cultivés, lorsque nous aurons développé les sciences et les arts, nous serons, un, plus vertueux, deux, plus à même à être des citoyens d'une république ? Ça, c'est quand même une question qui est encore la nôtre.
Dès ce texte de jeunesse s'esquissent les thèmes qui vont parcourir la philosophie politique de Rousseau, la citoyenneté et la perfectibilité. Le premier discours a obtenu tant de succès que les réponses, les réfutations, les réponses aux réfutations auraient pu durer aussi longtemps que la guerre de Troie. Mais Rousseau publie en 1755 un second discours, cette fois sur les origines et les fondements de l'inégalité. « C'est de l'homme que j'ai à vous parler, » dit-il. Et il pose une hypothèse. L'homme aurait connu un état de nature où il vivait sans distance avec lui-même, avant qu'obligé de produire ce qui lui était nécessaire pour survivre, il n'entre dans l'histoire. Et l'inégalité avec son semblable, à peine visible jusque-là, commence alors à se creuser. Mais des possibilités de perfectibilité se présente aussi Bruno Bernardi, qui est le grand animateur de la société Jean-Jacques Rousseau et du dictionnaire Rousseau Avenir, auquel participera Florent Guénard.
Il y a en l'homme ce que Rousseau appelle une perfectibilité, entre guillemets. La première preuve qu'il en donne, c'est la goinfrerie. Et oui, c'est-à-dire que l'homme, c'est cet animal qui est capable de manger au-delà de ce qui est nécessaire à sa vie, au-delà de ce qui lui fait du bien. Et cette malhabilité-là, mais précisément, je dirais, je ne le dis pas en propre terme, mais c'est la même raison qui peut lui faire développer la cuisine, la gourmandise, le goût, etc. Donc il y a cette malhabilité-là qui est en fait, initialement, on pourrait dire une forme d'inachèvement. L'homme, pour Rousseau, l'homme de la nature, est un être inabouti, inachevé, susceptible par conséquent, si les circonstances l'y poussent, et c'est ce qu'il va essayer de comprendre, de changements considérables. Mais en réalité, il a déjà décrit quelque chose qui a enclenché cela, qui a permis, et c'est globalement le développement de la passion amoureuse. La passion amoureuse qui définit chez Rousseau par la fixation. C'est-à-dire que, pour dire les choses très simplement, pour lui, l'appétit sexuel, commun à tous les êtres vivants, est indéterminé. Il ne se fixe pas. Le mécanisme producteur, c'est la préférence. C'est ce qui est dans la préférence amoureuse, qui a des racines esthétiques, qui a des racines sensibles, et qui, là encore, est ambivalente. Parce que de cette préférence-là naît la jalousie, naît l'hostilité, mais aussi le raffinement, mais aussi le respect, etc. Et cette racine-là ne minore pas du tout ce qui est l'origine de l'inégalité dans le désir de possession, mais elle la complète et permet de la comprendre. Parce que le désir de possession est en même temps un désir de pouvoir, mais aussi un désir de paraître. La domination, entre guillemets, c'est les choses que nous pouvons comprendre aujourd'hui, en grande partie, c'est le désir de se faire valoir.
Désir de possession, de pouvoir, de se faire valoir, instauration de la propriété. C'est ça le changement considérable qui vient dévier la possibilité de perfectibilité, l'inverser même. Une énergie qui aurait pu rester positive et transformée en énergie négative.
Si on cherche à comprendre pourquoi certains ont le privilège de vivre dans de belles maisons avec de grands parcs entourés de murs, qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre qu'un jour, des hommes plus forts que les autres sont arrivés dans un lieu, sur une terre où ils se sont installés. Et ils ont dit que cette terre était à eux et que les autres n'avaient plus le droit d'y mettre les pieds. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que cette terre reste à eux, Thérèse ?
Ils ont mis des barrières ?
Oui. Oui. Ils l'ont entouré d'un mur comme celui-là. Et puis, ils ont inventé des lois, ils ont inventé des gouvernements qui, contrairement à ce qu'on pense, ne sont fondés ni sur la justice, ni sur l'égalité. Ils ne font que défendre la loi du plus fort. C'est ça la cause de tous nos malheurs, Thérèse. C'est ça qu'il faut changer. Tu comprends ?
Tu veux tout foutre en l'air, alors ?
Qui sait ?
Ayant enclos un terrain,
s'avisa de dire
« Ceci est à moi !» et trouva des gens assez simples pour le croire,
fut le vrai fondateur de la société civile.
Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d'horreurs, il pointerait au genre humain, celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé,
eut crié à ses semblables.
Gardez-vous d'écouter cet imposteur. Vous êtes perdus. Si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre est à personne.
Tant que les hommes se contentèrent de leur cabane rustique, tant qu'ils se bornèrent à coudre leurs habits de peau avec des épines et des arêtes, ou à se parer de plumes ou de coquillages,
à se peindre le corps de diverses couleurs, à perfectionner ou à embellir leurs arcs et leurs flèches,
à tailler avec des pierres tranchantes quelques canaux de pêcheurs ou quelques grossiers instruments de musique.
En un mot, tant qu'ils ne s'appliquèrent qu'à des ouvrages qu'un seul pouvait faire et à des arts qui n'avaient pas besoin du concours de plusieurs mains. Ils vécurent
libres,
sains,
bons et heureux,
autant qu'ils pouvaient l'être par leur nature,
et continuèrent à jouir entre eux des douceurs d'un commerce indépendant.
Monsieur Lebrun, Rousseau ne voit-il pas l'inégalité s'installer dès lors qu'est instaurée la propriété et avec elle les liens de dépendance ?
Il faut comprendre que dans la construction de Rousseau, l'histoire commence par la décadence. En lieu de perfectionnement, l'homme, a connu la peur.
Il y a des propositions extrêmement fines sur le fait que dans une société moderne où les individus s'entre-regardent dans des institutions qui ne les maintiennent pas justement dans leur vertu, eh bien la peur au fond est un lien beaucoup plus fort que d'autres que le désir de liberté, que le désir d'égalité, etc., etc. Et c'est ça qui va dans le complot. Qu'est-ce que c'est qu'un complot ? C'est une société qui est tenue par la peur. Les comploteurs, au fond, sont dans une sorte de société du complot et ils sont tenus ensemble par un objectif négatif et par la peur d'être dénoncés d'une certaine manière. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça renvoie vraiment à toute son entreprise. Et c'est, moi, je trouve que c'est en cela qu'il est encore un de nos contemporains.
Bah, on le comprend très bien parce que la peur, c'est en effet le premier affect de l'homme en société au XXIe siècle. Les hommes, s'entre-regardant, ont peur. Et se comparant, ils peuvent devenir méchants. Le XVIIIe siècle, jusque pendant la Révolution, a parlé beaucoup de méchanceté.
Pourquoi est-ce que nous devenons méchants ? Parce que nous sommes mus par l'amour propre. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'amour propre ? Parce que nous laissons se développer dans nos communautés politiques des inégalités extrêmement fortes, qui nécessairement nous poussent les uns contre les autres. Rousseau désigne par amour propre toutes les passions de la rivalité, ce qu'il appelle en fait les passions négatives, toutes les passions qui m'opposent à l'autre, toutes ces passions au fond par lesquelles je vais me mesurer et essayer de mesurer ma puissance et mon impuissance par rapport à la puissance ou à l'impuissance de l'autre. Au fond, donc, alors on appelle ça, c'est ce que les moralistes français, dont La Rochefoucauld, appelaient l'orgueil. On est d'accord. Et effectivement, il en fait, comme d'ailleurs les moralistes français, comme La Rochefoucauld, le moteur des relations sociales. C'est effectivement, pour lui, ce qui nous motive principalement. Alors, c'est intéressant parce que il s'agit pour lui, c'est une motivation morale, pas simplement une motivation matérielle. Au fond, pourquoi est-ce qu'on cherche à s'enrichir ? Alors on peut effectivement chercher à s'enrichir parce que nous avons une sorte de jouissance du bien-être matériel. Mais ce qu'on constate autour de nous, dit Rousseau, c'est que les riches jouissent assez peu d'une certaine manière du confort qu'ils peuvent acquérir à travers leurs revenus et ne cherchent au contraire, cherchent toujours à s'enrichir encore plus. Et d'une certaine manière s'écartent encore de la jouissance parce qu'ils sont mobilisés par cet enrichissement. C'est donc qu'il y a quelque chose d'autre qui les pousse à agir. Et que l'enrichissement, au fond, joue comme signe de la puissance davantage que comme condition de vie. Le bonheur du riche passe par l'appauvrissement du pauvre. Et dans ce cas-là, eh bien, toutes ces passions-là déclenchent en nous de la méchanceté.
Aimer les pauvres, ne pas détester les riches. Rousseau n'adhérait pas au deuxième terme de cette morale. Il n'aimait pas chez les autres philosophes leur acceptation du compromis social. Helvétius, vivant dans un beau château du Perche, du produit des impôts qu'il collecte au nom du roi de France. Hume, qui lui propose une pension du roi d'Angleterre, et avec qui il se prend d'une querelle violente car il déteste le patronage et la dépendance. Voltaire, qui deviendra un autre ennemi inexpiable et qui arrondit sa fortune par la fourniture de matériel aux armées.
Ce qui peut me faire peur, ces bourgeois, c'est tellement grave que leur vente court plus vite qu'eux.
France Inter.
On est allé à Nanterre, c'est la faute à Voltaire. Eh ben, t'as pas les os, c'est la faute à...
Intelligence, service.
Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau.
Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau.
Victor Hugo réunira plus tard par la voix de Gavroche, Voltaire et Rousseau. Mais dès le deuxième discours en 1755, une fracture s'est ouverte entre ces deux philosophes, Monsieur Lebrun.
Oui, parce que Voltaire s'agaçait de la célébrité bruyante de son cadet, et après ce second discours, il avait voulu mettre le holà. Mais, monsieur, Nous décrivant votre état de nature, vous faites preuve de beaucoup d'esprit pour nous rendre bêtes. » Rousseau, alors, n'a pas pris si mal le trait que lui envoyait Voltaire. Mais ce qui l'irritait davantage, c'est que Voltaire lui écrivait depuis les environs du lac Léman, où il s'était installé justement en 1755. Et à l'époque, Rousseau idéalisait encore sa chère République de Genève, où il voyait un essai de souveraineté populaire inachevé, certes, mais qu'il ne voulait pas voir corrompre par l'impureté du comportement de Voltaire. Seigneur à Ferney, Voltaire organisait des spectacles, menait grand train. « Monsieur, lui écrira Rousseau, vous avez perdu Genève. » Bruno Bernardi.
Au fond, les philosophes au XVIIIe siècle, dans le langage courant de l'époque, c'est un groupe social, partageant un certain nombre d'idées, un certain nombre de pratiques, un certain nombre de positionnements. Et Rousseau se situe extérieurement par rapport à eux, sur plusieurs terrains. On pense souvent, et c'est vrai, sur le terrain, entre guillemets, de la terme de croyance n'est pas le bon, de foi religieuse, mais tout autant, et peut-être plus, sur le terrain du positionnement social. Je crois que c'est une chose qu'il faut bien voir. Rousseau, c'est celui qui parle du peuple. Non pas comme une abstraction, non pas simplement comme un concept qu'il est chez lui pour penser le politique, mais comme une réalité sociale. Rousseau, c'est celui qui dit que ce qui ne... Pour reprendre ses termes propres, il lui est arrivé de dire, dans les Mille, que c'est le peuple qui compose le genre humain. Ce qui n'est pas peuple est si peu de choses que ce n'est pas la peine de le compter. Et il poursuit en disant « Le peuple se montre tel qu'il est, il n'est pas aimable. Mais bien que les gens du monde se déguisent, s'ils se montraient tels qu'ils sont, ils feraient horreur. » Et vous avez là se croiser toute une série, bon, se montrer, l'apparence, etc. Mais il y a chez Rousseau une... Je dirais une insistance à prendre pied, entre guillemets, dans la réalité sociale de ceux qui sont le peuple, parce qu'ils sont dépourvus de pouvoir, ils sont dépourvus de richesse, ils sont dépourvus des moyens de satisfaire leurs besoins. Et quiconque pense sans avoir ce paradigme en tête, pour lui, ne pense pas.
Et dans les Mille, justement, ce traité d'éducation de 1761, Rousseau donne l'exemple de la simplicité.
Pour être bien servi, j'aurai peu de domestiques. Cela a déjà été dit, et cela est bon à redire encore. Un bourgeois tire plus de vrais services de son seul laquais qu'un duc des 10 messieurs qui l'entourent. J'ai pensé 100 fois qu'ayant à table mon verre à côté de moi, je bois à l'instant qu'il me plaît. Au lieu que si j'avais un grand couvert, il faudrait que 20 voix répétassent « à boire » avant que je puisse étancher ma soif. Tout ce qu'on fait par autrui se fait mal, comme qu'on s'y prenne. Je n'en verrai pas chez les marchands, j'irai moi-même. J'irai pour que mes gens ne traitassent pas avec eux avant moi, pour choisir plus sûrement et payer moins chèrement. J'irai pour faire un exercice agréable, pour voir un peu ce qui se fait hors de chez moi. Cela récrée, et quelquefois cela instruit. Enfin, j'irai pour aller. C'est toujours quelque chose.
Note en marge de cette lecture de l'Émile, d'un citoyen de Genève, l'historien et essayiste Henri Guillemin.
C'est une vieille tradition de dire, mais enfin, il faut pas que les gens protestent contre le luxe, les pauvres protestent contre le luxe, parce que le luxe les fait vivre. Par exemple, à Paris, s'il n'y avait pas une brillante société, nous parlons du XVIIIe siècle, une brillante société qui fait des commandes à ses artisans du Faubourg Saint-Antoine, parce qu'ils ont besoin de très beaux meubles, eh bien, ces gens seraient plus malheureux. Le luxe les entretient, réponse de Jean-Jacques. Le luxe nourrit peut-être 100 pauvres dans nos villes, mais il en fait périr 100 000 dans nos campagnes. Il invente, enfin un personnage qu'il appelle Chrysophile. Vous savez, Chrysophile, c'est ce mot grec qui veut dire ami de l'or, ami de l'argent. Je ne sais pas si Jean-Jacques discute réellement avec quelqu'un, s'il a inventé ce personnage fictif pour faire un dialogue. Et ce Chrysophile est quelqu'un qui dit à Jean-Jacques, mais c'est vrai, je voudrais bien être très riche, j'aime l'argent, parce que l'argent est une puissance, et qu'une fois que j'aurai beaucoup d'argent, je pourrai faire beaucoup de bien autour de moi. Jean-Jacques n'aime pas en doute la sincérité de cet homme, mais il lui dit « Tu m'as bien parlé de ta conduite, étant riche, enfin quand tu seras riche. Mais tu ne m'as rien dit de ce que tu ferais pour t'enrichir. Parce qu'il n'y a guère de fortune dont l'origine soit tout à fait clairement avouable et qui ne repose sur le détroussement d'autrui. » Alors Jean-Jacques va écrire un certain nombre de choses que voici. Tout cet ordre social prétendu, qui couvre en fait les plus cruels désordres. Comment voulez-vous que l'on admire une société où le profit est en raison inverse du travail? Ou encore ceci. Tout privilège au profit des particuliers qui les obtiennent est à la charge de la nation qui les donne. Ils s'amusent aussi de l'artifice usuel des financiers qui, pour dissimuler leurs opérations, répandent partout le bruit. C'est infiniment compliqué. Ah, il faut, pour les comprendre, avoir fait ses études, avoir fait quelque chose que le profane ne peut pas comprendre. Et Jean-Jacques dit, oh, je comprends bien, il nous explique que c'est extrêmement complexe, afin que, ne l'entendant point, ce langage, on n'ose pas le contredire. Il nous parle de ressorts que l'on nous dit si profonds que de peur que peut-être nous tentions de les découvrir dans leur simplicité.
L'union du pauvre avec le riche serait donc une illusion? Pour Jean-Jacques Rousseau, un vrai contrat par lequel un peuple serait un peuple, ce serait bien autre chose.
Le livre « Le contrat social » est contemporain de l'Émile. Leurs publications conjuguées vont provoquer l'orage au-dessus de la tête de Rousseau qui ne s'y attendait pas vraiment. Le contrat social prolonge sa réflexion sur les lendemains de l'état de nature. À partir du moment où les hommes se sont pour la première fois rencontrés entre eux, autour d'un feu peut-être, comment ont-ils songé à nouer une association? Alors un immense philosophe avait déjà posé cette question, c'est l'anglais Thomas Hobbes, l'auteur du Léviathan. C'est à Hobbes que Rousseau veut se mesurer. Ils sont tous les deux d'accord pour dire que les hommes sont mus par la recherche de leur bien-être, mais dès lors que l'inégalité s'est établie entre eux, Hobbes observe que les plus faibles s'en vont chercher la sécurité à l'ombre des plus forts. Ils encourent alors le risque d'être mis en servitude par les plus forts, qui en viendront, eux, à se mettre au-dessus des lois qu'ils auront pourtant édictées. Rousseau veut opérer un renversement démocratique et imaginer que les contractants peuvent s'associer en liberté, comme peut-être cela a été tenté dans les temps anciens, dans sa bonne République de Genève. Henri Guillemin, toujours le jeune voix, mais revenu de pas mal d'illusions.
Ben nous arrivons maintenant au contrat social. Et quand on pense contrat social, quand on pense Jean-Jacques plutôt, on se dit l'essentiel de sa pensée politique, c'est dans ce livre. Voyons, Jean-Jacques, dans le contrat social, prend à bras le corps ce problème, qui est le problème capital d'organisation sociale, quoi. Comment est-ce qu'on peut concilier l'autorité et la liberté? Il est évident qu'aucune société n'est concevable sans une autorité. Mais où la trouver, cette autorité? Où sera-t-elle légitime? Ben, Jean commence à partir d'une idée qui ne lui est pas particulière à lui. C'est une idée que vous trouvez même chez saint Thomas, à savoir ceci, aucun homme, n'a sur son semblable une autorité naturelle. Ça veut dire que nous sommes tous pareils, et qu'aucun homme n'est qualifié pour donner un ordre, pour imposer sa volonté aux autres. Alors, où trouver une autorité légitime? Jacques dit, la seule autorité légitime, c'est celle de la volonté générale. Alors vous allez croire que c'est immédiatement suffrage universel, république, quoi, ce qu'on appelle la souveraineté nationale, mais c'est là où la pensée de Jean-Jacques est assez délicate et même ambiguë. Jean-Jacques dit, il faut distinguer entre la volonté générale et la volonté de tous. Ça paraît des têtes d'épingle, hein, mais il faut bien comprendre ce qu'il veut dire. Jean-Jacques estime qu'au fond de chaque individu, il y a une orientation spontanée vers le bien. Ce qui fait que ce qu'il nomme la volonté générale, c'est l'accord substantiel, l'accord naturel, l'accord instinctif, selon lui, de toutes les volontés dans la direction du bien. Mais la volonté de tous, qui paraît être semblable à la volonté générale, ah pas du tout, dit Jean-Jacques, la volonté de tous, ça ne peut être, c'est très souvent, que l'accumulation de volontés individuelles, les volontés individuelles qui vont dans tous les sens, qui sont divergentes, et qui ne sont pas, parfois, et hélas, assez souvent, semblables à cette volonté générale, c'est-à-dire à cette orientation naturelle vers le bien. Alors Jean-Jacques, comment est-ce qu'il va faire pour essayer de concilier cette volonté générale et cette volonté de tous? C'est là où je trouve que la plupart des commentateurs glissent. Parce qu'évidemment, la pensée de Jean-Jacques est glissante, elle est fluide. Il dit, il faut un législateur. Il emploie un L majuscule. Un législateur qui, lui, aura assez d'autorité, aura assez de prestige, aura assez d'affection autour de lui pour arriver à persuader les gens et à faire coïncider cette volonté de tous avec la volonté générale. Où est-ce qu'on va le trouver, ce législateur? Et quel est l'homme qui aura assez d'autorité naturelle, enfin, pour persuader les gens qu'il faut aller dans tel sens plutôt que dans tel autre? C'est là, à mon sens, ce qu'il y a de plus faible dans le contrat social. Et Jean-Jacques s'en rendait parfaitement compte. Jean-Jacques lui dit, dans mon malheureux contrat social, ce que j'ai essayé de faire, c'est la quadrature du cercle. Et vous savez qu'on n'y arrive jamais.
La quadrature du cercle. Alors le législateur, est-ce que c'est un homme plus compétent que les autres? Question très actuelle. Au XXIe siècle, le champ des connaissances est devenu si complexe. Qui peut se dire compétent? Est-ce qu'il faut en revenir au système idéal de Clisthène, le supposé fondateur de la démocratie d'Athènes au VIe siècle avant notre ère? Nous sommes tous égaux, un peu comme dans la Convention climat, on est tous égaux, il faut qu'on soit un peu formé et on devient compétent. Mais Athènes, c'était une petite cité, d'autant que les esclaves et les femmes étaient exclus de la citoyenneté. Et est-ce que, dans une petite cité, la démocratie est possible longtemps? Genève a trahi les espoirs de Jean-Jacques Rousseau et l'a exclu. Est-ce qui est possible dans une petite cité? Peut-être. L'est-il longtemps dans un ensemble plus grand? Florent Guénard.
Eh bien, au fond, ce qu'il appelle République, c'est ce que nous appelons, nous, démocratie. C'est-à-dire que, évidemment, la démocratie, notre démocratie à nous les modernes, c'est pas la démocratie des anciens. C'est pas la démocratie des anciens. Ça peut plus être la démocratie en un sens ancien. Mais en même temps, il prend bien la peine de distinguer la souveraineté populaire et la forme du gouvernement. Il ne s'agit absolument pas pour lui qu'une république s'auto-gouverne. Une fois que les lois ont été décidées par les citoyens, il peut très bien y avoir, évidemment, les citoyens ont à choisir des individus qui auront pour fonction de gouverner, c'est-à-dire de mettre les lois en application. Il faut donc un gouvernement. Mais qu'est-ce que va faire ce gouvernement? Qui aura donc le pouvoir? Qu'est-ce que va faire son gouvernement? Ce gouvernement cherchera toujours, par sa nature même, à se distinguer de la souveraineté. Et cette distinction sera telle qu'il finira par se retourner contre la souveraineté. Voilà le problème auquel nous avons maintenant désormais affaire. Voilà le problème politique. Comment faire en sorte que le peuple ne soit pas trahi par ses chefs? Comment faire en sorte que les chefs ne se retournent pas contre le peuple? Comment déléguer du pouvoir à des individus sans faire en sorte que ces individus n'abusent de ce pouvoir?
Et comment faire si on pose ces questions d'une manière internationale, parce qu'il faut raisonner par cercle concentrique. La cité du contrat social, idéalement assez petite, est englobée dans des ensembles géographiques plus grands qui eux-mêmes sont englobés dans le vaste monde. L'internationalisation du contrat social, c'est difficilement envisageable. Rousseau, d'ailleurs, n'espère pas en un droit international. Il ne faut pas le voir comme un précurseur de ce côté-là. Signer un contrat social n'épargne pas la guerre avec les voisins.
Monsieur Lebrun, existe-t-il un terrain d'élection où puisse se réaliser le contrat social de Jean-Jacques Rousseau?
En effet, on se le demande. Il faut féconder le terrain par l'éducation. C'est ce que recommande l'Émile. Le personnage de l'Émile, c'est un peu une hypothèse, hein, comme l'état de nature. Et le gouverneur va le former à la citoyenneté par une éducation plébéienne avec l'apprentissage d'un métier manuel. Mais quand viendra le moment de s'établir? Se posera, pour Émile, la question « Où aller ?» Alors le gouverneur lui dira de mener une vaste enquête.
On sait en quel lieu il est aisé de se faire riche, mais qui sait où l'on peut se passer de l'être? Qui sait où l'on peut vivre indépendant et libre, sans avoir besoin de faire mal à personne et sans crainte d'en recevoir? Croyez-vous que le pays où il est toujours permis d'être honnête homme soit si facile à trouver? S'il est quelques moyens légitimes et sûrs de subsister sans intrigue, sans affaires, sans dépendance, c'est, j'en conviens, de vivre du travail de ses mains en cultivant sa propre terre. Mais où est l'État où l'on peut se dire « La terre que je foule est à moi » ? Avant de choisir cette heureuse terre, assurez-vous bien d'y trouver la paix que vous cherchez. Gardez qu'un gouvernement violent, qu'une religion persécutante, que des mœurs perverses ne vous y viennent troubler. Mettez-vous à l'abri des impôts sans mesure qui dévoreraient le fruit de vos peines, des procès sans fin qui consumeraient votre fonds. Faites en sorte qu'en vivant justement, vous n'ayez point à faire votre cour à des intendants, à leurs substituts, à des juges, à des prêtres, à de puissants voisins, à des fripons de toute espèce, toujours prêts à vous tourmenter si vous les négligez. Mettez-vous surtout à l'abri des vexations des grands et des riches. Songez que partout, leurs terres peuvent confiner à la vigne de Naboth.
Mais alors, dans les milles, lorsque le gouverneur des milles lui propose de faire un tour en Europe et de choisir son pays, la proposition est déjà d'une certaine manière biaisée. Il y a un jeu ici. Elle est biaisée parce que le gouverneur sait très bien qu'Émile reviendra et qu'il ne trouvera aucune terre de liberté. Donc il sait très bien qu'il reviendra. Et lorsqu'il le reviendra, il lui dira « Oui, effectivement, il n'y a plus de patrie aujourd'hui en Europe, parce que justement le despotisme a triomphé. Mais tu as quand même encore un pays, et dans ce pays, tu as des attaches. Et c'est là que tu dois t'installer. »
Le Salve Regina maintenant est en Corse de surcroît. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est le premier hymne de la Corse indépendante. Et Crusoe a un peu songé à s'établir dans l'île après qu'elle s'était fédérée sous l'égide du général de la nation, Pascal Paoli, qui en appelait à la liberté ou la mort.
Et Azo, Azo est néso compito. Ogni corso è un nome corso. E pourtant, da un fuoco ardente, da un coraggio tremendo, e da un amore infinito per la libertà. Eroi ne vego quante luce corso. Liberiseremo! Non saremo più nonno! Ci tocca pinci! O ci tocca morire la mamma!
Quand la demande lui parvient depuis l'île de rédiger un projet de constitution pour le nouvel État, Crusoe accepte d'enthousiasme. À distance, il se documente sur la Corse, dont il rapproche la structure d'abord paysanne de celle, non pas de la République de Genève, mais de la première confédération helvétique.
Alors la Corse, pourquoi ? Parce que la Corse a su conserver des mœurs austères, un sentiment d'appartenance extrêmement fort à la communauté corse, à l'île, sentiment d'appartenance qui est lié à la fois aux mœurs, d'abord, ce sont des paysans. Et les paysans sont attachés à la terre. Ils sont attachés à la terre qui les fait vivre. Et puis aussi parce que cette terre, il a fallu la défendre contre les invasions. Donc tout ça, au fond, prédispose les Corses, cette espèce de frugalité qu'il y a en eux, et puis ce sentiment d'appartenance à une nation corse, tout ça les prédispose à adopter des mœurs républicaines.
Il imagine que Corté, c'est la capitale idéale, parce qu'on ne peut pas y aller, quoi. La terre est austère, ça ne produit pas beaucoup, et c'est inaccessible.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire
et ça
que...
fait une bonne capitale parce qu'elle est retenue dans ses ambitions.
Ça fait une bonne capitale parce qu'elle est retenue dans ses ambitions. Ça fait aussi, au fond, c'est compliqué. Je pense pas qu'il interdise totalement le commerce. Mais ce qui est important, c'est qu'une nation puisse d'abord compter sur ses propres forces. Ça fait pas de l'idéal autarcique un idéal politique marqué. Il ne s'agit pas de tendre à ça. Mais il s'agit, au fond, pour un État, de ne jamais se mettre sous la dépendance d'un autre.
Bon, la Corse est en fait plus paradoxale que ne le pense Rousseau. C'est sa petite aristocratie, par exemple, plus que sa paysannerie, qui s'est préoccupée sans cesse de son indépendance. Et la Pologne, elle l'est encore davantage. Elle combine la monarchie avec l'élection par l'aristocratie. Les considérations sur le gouvernement de la Pologne sont le dernier texte politique de Rousseau, toujours à la recherche d'un cas expérimental pour vérifier une partie au moins de ses idées. Puis, revenu en France, il finit par dire « Allez, je mets les systèmes politiques de côté, je suis juste bon à aller errant en bonnet de nuit dans la campagne ».
Il est difficile de dire qu'en fait, il est satisfait d'être coupé de l'humanité. Il est satisfait, d'une certaine manière, d'avoir échappé à des relations sociales qu'il juge insatisfaisantes. Ça, c'est absolument réel. C'est-à-dire que Rousseau n'a jamais fait de la solitude un idéal éthique. C'est pas un idéal éthique. Ou alors, si on veut, c'est un idéal éthique par défaut. Par défaut d'une sociabilité dont il a pensé les conditions... et que lui-même, d'une certaine manière, dans sa chair, n'a pas vécu. Il a passé son temps, il le dit, il aurait voulu avoir des amis, il n'a jamais pu en avoir. La misère, d'une certaine manière, la misère de la société dans laquelle elle a vécu, et qu'il attribue justement aux conditions modernes d'existence, cette misère-là, c'est l'incapacité où nous nous trouvons d'avoir des amis. C'est-à-dire que, voilà, nous ne sommes plus... Hein, l'amitié est la chose, sans doute, il partage ça avec les Grecs, vraisemblablement, et avec bien d'autres. L'amitié est la chose la plus belle du monde. Hein. C'est un accomplissement, évidemment, de soi-même, irremplaçable. Simplement, Rousseau nous dit la chose suivante, comme d'ailleurs Aristote le disait en son temps, mais pour d'autres raisons, on ne peut pas avoir des amis dans n'importe quelle situation. Il faut des conditions sociales pour que l'amitié puisse se déployer. Et oui. Il faut des conditions sociales pour que l'amitié puisse se déployer. Donc tout ce jeu de l'amour-propre, de la défiance, de la rivalité, toutes ces passions, effectivement, sont des conditions d'impossibilité de l'amitié. Alors si je peux pas avoir des amis, il vaut mieux d'une certaine manière que je vive tout seul.
Et c'est ainsi qu'accompagné de sa vieille compagne, Thérèse, protégée par l'amitié peut-être intéressée du marquis de Girardin, Rousseau meurt en 1778 à Ermenonville, moins seul qu'entouré de promesses.
Être éternel, rassemble autour de moi l'innombrable foule de mes semblables. Qu'ils écoutent mes confessions, qu'ils gémissent de mes indignités, qu'ils rougissent de mes misères, que chacun d'eux découvre à son tour son cœur au pied de ton trône avec la même sincérité. Et puis qu'un seul te dise, s'il l'ose, je fus meilleur que cet homme-là.
Alors on sait que la fortune politique des écrits de Rousseau, la fortune posthume, a été immense. Il participe évidemment des origines intellectuelles de la Révolution qu'il n'avait pas prévues ni souhaitées, mais il a légué aux révolutionnaires des outils intellectuels pour penser la transformation, plus exactement un miroir pour regarder, stupéfait, leur propre transformation. Aussi les conventionnels l'ont-ils considéré comme l'un des leurs, et panthéonisé sans hésitation ni remords en 1794. Pour conclure, Bruno Bernardi, l'animateur de la société Jean-Jacques Rousseau.
C'est Thérèse qui arrive avec une délégation de la commune d'Ermenonville pour demander la panthéonisation de Rousseau. le président de l'Assemblée, qui est de Brie, charge le comité d'instruction publique, c'est-à-dire la Canale, de la préparer. La décision de panthéoniser Rousseau a été prise en germinal par la Convention montagnarde, direction Robespierre. Mais ce qui m'intéresse, c'est le discours absolument extraordinaire tenu par Jean de Brie, qui est quelqu'un qui a eu, je dirais, c'est un personnage secondaire de la Révolution, mais qui parle après Thermidor. C'est un discours qui dure 2 heures, en gros, à l'Assemblée, à la Convention, d'accord, en fin août 1994, avant la panthéonisation qui sera quelques semaines plus tard. Et la question qu'il pose est très simple. Ce qu'il essaie de comprendre, c'est pourquoi il y a eu la terreur, pourquoi nous avons été menés à la terreur, si on écarte parce qu'il pense qu'il y en a eu les circonstances qui nous ont contraints, et en fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et dans les deux cas, il s'appuie sur Rousseau. Et il s'appuie sur Rousseau comment? En disant, alors, je vais paraphraser, hein, parce que là, j'ai un groupe à le... nos lois sont dures et abstraites. Ce dont il y a besoin, en guillemets, c'est des sentiments d'affect et c'est les mœurs. Et il essaie d'expliquer sa théorie, qui est extraordinaire. Il dit, la révolution, c'est quelque chose qui doit aller vite. Et les mœurs, c'est quelque chose qui ne peut changer que lentement. On a été contraints. Pourquoi la terreur? Parce que nous avons été contraints, pour changer vite, de changer par la contrainte, c'est-à-dire par les lois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, ce qu'il préconise en ce moment-là, il faut relire Rousseau, ce dont les législateurs s'occupent en secret, là on parle vraiment de la politique de Rousseau, des mœurs, de l'opinion, de leur formation, par des fêtes, par l'éducation, l'éducation primitive à la démocratie, dans la famille, dit-il, et ainsi de suite. Donc, là, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas qu'il donne raison à Rousseau, c'est que le rapport qu'il entretient avec sa pensée, qui n'est pas de savoir est-ce que Rousseau avait dit ce qu'il fallait, est-ce que etc., mais on est dans une difficulté, on s'est planté, comment on peut le comprendre, et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et là, il emploie des outils. C'est-à-dire, le rôle, enfin, l'intérêt, disons, de Rousseau, ça veut pas dire, c'est pas les effigies qu'on colle à l'Assemblée, les statues, etc., c'est pas ça l'intéressant. L'intéressant, c'est ça. Il y a une génération qui a appris à penser avec lui, et qui a pensé aussi contre lui, par moments. Hein.
Qui a fait le discours de Panthéon?
La Canale.
Oui.
En fait, d'ailleurs, c'est intéressant, parce que quand la décision de panthéonisation est prise, donc avec Robespierre, c'est De Brie qui porte le projet, ben le décret, et c'est la Canale qui a cette fameuse phrase dans son discours, qui il dit « La Révolution nous a appris à lire le contrat social ». C'est intéressant, parce que lui, justement, il est intelligent. Il dit pas « Nous avons fait la Révolution avec le contrat social, pour suivre le contrat social, pour l'exécuter ». Absolument pas. C'est en rencontrant les difficultés, nous avons compris ce qui se passait là-dedans, ce qui était en jeu.
Merci à Bruno Bernardi et à Florent Guénard. On retrouve leurs références bibliographiques, celles de la Société Jean-Jacques Rousseau, sur notre site. L'émission bénéficiait de l'interprétation de François Simon dans le très beau film de Claude Goretta consacré au dernier Rousseau et des lectures de Philippe Pierrard. À la technique, Yves Lehor, c'est à la maison de la radio et de la musique, Anne-Laure Cochet. Les agents d'intelligence service, Frédéric Martin et Franck Olivard. Et la réalisation, Audrey Ripouille.